Bonjour à tous pour cette 37e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, notre émission prend la forme de miscellanée, de propositions aussi diverses et étrangères les unes des autres. Ce terme miscellanée signifie un recueil varié de textes, qu'ils soient littéraires, scientifiques ou en l'occurrence radiophoniques. Nous commencerons par revenir sur l'œuvre de Piotr Pawlinski, non pour l'analyser comme nous l'avons largement fait lors de notre 32e émission, mais pour confronter ses performances politiques à celles d'autres personnes russes, peut-être pas artistes, mais ayant mis en œuvre récemment des actions d'une force symbolique équivalente, et relever les différences de leur situation judiciaire en Russie, et de confronter la situation judiciaire de Pawlinski lorsqu'il a été jugé en Russie avec celle où il a été condamné en France. Nous poursuivrons par une lecture partielle du petit livre d'Eleonora Carrington, grande représentante anglaise du surréalisme, un récit sans tabou sur un moment d'internement dans un hôpital psychiatrique espagnol pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle dresse le combat entre son hypersensibilité, qui l'écarte de toute rationalité, la plonge dans un chaos, et sa forme de résistance au sein de sa folie, qui lui permet d'échapper à la dilution de sa personne, malgré l'action autoritaire de certains docteurs. Pour finir ce petit mélange de chroniques, nous parlerons d'une artiste que j'apprécie depuis longtemps, Cécile Le Talec, qui développe une œuvre autour du son, mais différemment de celle de Christian Marclay, dont nous avons largement commenté l'extraordinaire exposition au Centre Georges Pompidou dans notre 27e émission. Elle a exposé au musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine au début de l'année 2024 à Angers. De plus, je vous conseille, si vous le pouvez, de vous rendre à la Fondation LVMH à Paris pour y voir l'exposition consacrée à Marc Rothko, qui se terminera le 2 avril 2024. Nous consacrons une émission entière à ses écrits. Notre programmation musicale portera une attention particulière à Guy Béard, avec deux chansons peu connues, « La guerre va chanter » et « Les proverbes d'aujourd'hui ».
Un peu d'analyse. Je vis, comme vous tous, quotidiennement cette violence que la Russie a déchaînée en Ukraine après l'avoir expérimentée en Tchétchénie puis en Syrie. Violence tout autant dirigée à l'intérieur, sur ses habitants, sur ses soldats, qu'à l'extérieur, sur un pays ravagé par une pluie de missiles, détruit, rasé systématiquement. L'art de Pawlinski, dont nous avons parlé lors de notre 32e émission, révèle la violence qu'il fait subir à son corps, par exemple en se cousant les lèvres. Cette violence réelle vient comme pour traduire symboliquement la violence que le régime de Vladimir Poutine produit. Certes, Pawlinski a été arrêté pour ses actions, mais nous avons pu démontrer combien l'arrestation renforçait sa portée et combien il jouait à son bénéfice avec ses accusateurs. La violence de l'État russe appliquait sa violence politique grâce à un système judiciaire, mais un système qui tenait encore à conserver sa cohérence institutionnelle et une certaine autonomie, bafouée certes par l'État dont il faisait partie. Ainsi, il préférait qualifier les personnes comme Pawlinski de déviants, de fous ou de psychopathes, plutôt que de signifier une infraction ou un délit. Le livre de Pawlinski retrace cette impossibilité pour le juge instructeur de qualifier de vandalisme sa performance « séparation » en cherchant désespérément qui a mis le feu aux pneus, ou même la perplexité de la police face à un homme qui se coule la bouche et se place délibérément dans l'espace public. L'artiste, en agissant ainsi, révèle combien ses actions sont politiques, comme l'est tout le fonctionnement de l'État qui s'évertue quand même à dissimuler sa vision tyrannique du pouvoir, comme il a dénié le nom de guerre à son opération spéciale. La dissimulation, le mensonge et le fonctionnement structurel de l'action de Vladimir Poutine, exactement comme il a procédé lors de l'invasion de la Crimée, avec des soldats russes qui n'étaient pas soi-disant russes, mais le mensonge visait à créer une fausse confusion à destination de ses ennemis extérieurs, pour lesquels l'absence de soldats russes, bien que personne n'était dupe, les empêchait pleinement de dénoncer une invasion par la force d'un territoire qui n'appartenait plus à la Russie. Mais la durée de la guerre avec l'Ukraine l'oblige à radicaliser son mensonge à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, ceux qui ne sont pas pour la guerre sont des traîtres auxquels on applique des sanctions d'une grande gravité. À l'extérieur, ce sont des ennemis qu'il faut combattre pour la survie de la Russie. Plus aucun autre discours n'est admissible. À cet égard, deux actions menées par deux jeunes russes à l'intérieur de leur pays aurait pu être considéré comme artistique dans une époque précédente à la guerre, mais aujourd'hui, ils sont immédiatement condamnés, sévèrement, alors même qu'ils n'ont ni porté préjudice à des biens ou à des personnes. Leur valeur symbolique a suffi à les considérer comme des traîtres. Le premier s'appelle Egor Baletzekin, il a 17 ans. Il a été reconnu coupable de tentatives d'actes terroristes dans le but de déstabiliser les institutions de l'État. Je cite Le Monde du 22 novembre 2023. Qu'a-t-il fait ? Il a lancé un cocktail Molotov contre les portes du bureau de recrutement militaire de Kirov et de celui de Saint-Pétersbourg. Quand il est arrêté par les policiers, il leur dit qu'il a attendu 22 heures pour être sûr de ne pas faire de victimes. Il a été condamné à 7 ans de prison. Alors que Pavensky n'a été en détention préventive qu'environ 7 mois, il s'agissait uniquement d'un acte symbolique contre la guerre, comme l'était celui de Pavlensky contre la porte du FSB lors de sa performance « Menace » en 2015, qu'il décrivait ainsi. Le 9 novembre 2015, en pleine nuit, Pavlensky enflamme le portail du siège historique du FSB, les portes de l'enfer, sur la place moscovite de la Loubianka. Les mots suivants accompagnent la photo de l'action menée « Menace ». La porte en feu de Loubianka, c'est un gant jeté par la société à la face de la menace d'État. Le service fédéral de sécurité FSB use de la terreur sans fin pour exercer son pouvoir sur 146 millions de personnes. La peur transforme les hommes libres en masse gluante de corps disloqués. Régulièrement mis en cause par la justice, Pavlensky transforme ses procès en performances politiques. En avril 2016, il invite des prostituées en qualité de témoin à la salle d'audience. Le 8 juin 2016, après 7 mois de détention préventive et 21 jours d'expertise psychiatrique, il est condamné à une amende de 500 000 roubles. Pour l'instant, il échappe à la prison. Une autre artiste, Alexandra Skochilenko, a été condamné récemment à 7 ans de colonie pénitentiaire pour avoir collé des slogans contre la guerre par-dessus les étiquettes de prix dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. Tiré du Monde du 17 novembre 2013. Dans un autre temps, dans un autre pays, cette action aurait pu être appréciée comme artistique, comme l'ont été les actions de Pavlensky de 2012 à 2016 ou celles des Pussy Riot. Ainsi se posent deux questions. Comment s'apprécient les formes artistiques et comment un État tyrannique et un État démocratique procèdent-ils respectivement pour apprécier les formes artistiques qui transgressent les règles de droit ? À cet égard, il est intéressant de revenir sur les condamnations de Piotr Pavlensky en France. Les 15 et 16 octobre 2017, Pavlensky met le feu aux grilles de l'agence de la Banque de France de la place de la Bastille à Paris dans un geste artistique qu'il nomme « éclairage » et qu'il justifiait ainsi dans son communiqué. La Banque de France a pris la place de la Bastille, les banquiers ont pris la place des monarques. La Grande Révolution française a fait de la France un symbole de liberté pour le monde entier. En 1917, grâce à ce symbole, la Russie s'est élancée vers la liberté, mais 100 ans plus tard, la tyrannie règne de nouveau partout. Tiré du Monde du 8 septembre 2018. Ariane Mouchkine écrit à la juge d'instruction pour solliciter sa bienveillance à son égard en estimant qu'il n'est pas plus un délinquant dangereux que Salvatore Dali, André Breton ou Robert Desnos, qu'est pourtant les gestes de ceux-ci causèrent des scandales autrement plus tempétueux, cité donc dans Le Monde du 8 septembre 2018. Il est condamné donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et passe 11 mois à Fleury-Mérogis, dans les quartiers des terroristes, pour destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, cité du Monde du 14 février 2020. La deuxième affaire commence donc le 11 octobre 2023, Il a été donc condamné pour avoir dérobé et diffusé des vidéos à caractère sexuel impliquant Benjamin Griveaux en février 2020, donc ça c'est Le Monde du 21-22 février 2020, et à une peine de 6 mois de prison ferme, aménageable en placement sous bracelet électronique pour atteinte à l'intimité de la vie privée, tiré donc du Monde du 18 juin 2023. À la suite de ces publications, Benjamin Griveaux avait renoncé à se présenter à la mairie de Paris. Pavlansky revendique donc une liberté d'expression qui lui permet de dévoiler les structures politiques de l'État. Mais quelle en est la limite de cette liberté d'expression ? Vaste débat dont l'actualité nous rappelle en permanence les contours. Faut-il modérer les débats sur les réseaux sociaux ? Faut-il garantir les droits à la personne et à l'image dans le monde de l'informatique ou ne pas intervenir, même si les réseaux diffusent des mensonges ? Dans les pays démocratiques, l'application du droit est première, comme garante de la protection et de la justice entre les citoyens. Un droit, bien évidemment, qui doit s'adapter en permanence aux réalités. Dans les pays autoritaires, tyranniques, le mensonge est structurel et devient institutionnel en temps de guerre, et le droit s'absente, ou plutôt, comme le dit Pasolini dans son film « Salo » ou « Les 120 jours de Sodome » de 1975, c'est l'anarchie de la loi. La différence est de taille, même si les partis politiques extrêmes tentent à faire accroître le contraire. La limite est ténue, car le droit en démocratie, comme dans l'autorité tyrannique, agit sur le droit applicable. Pour les autorités tyranniques, l'enjeu consiste à mimer le droit à son profit. Alors, la justice n'est plus que la servante de son enjeu politique. À l'inverse, même si l'État démocratique définit le droit selon des procédures de la loi et du règlement, les juges conservent une indépendance dans leur interprétation du droit. Dans les deux affaires, les juges français privilégient clairement l'atteinte aux biens et aux personnes, appliquent le droit comme pour n'importe quel autre citoyen, et sanctionne modérément Pavlansky. Malgré sa volonté de théâtraliser les procès, Pavlansky échoue à en faire une tribune politique en France. Or, pourquoi le juge instructeur russe ne parvient-il pas à qualifier facilement de vandalisme sa performance séparation ? Parce qu'il est difficile de qualifier un fait d'une façon qui ne peut pas l'être aux yeux de tous. Dit autrement, nous pourrions dire que dans les années 2012-2016, en Russie, il y avait encore un espace de dialogue, de confrontation entre les personnes, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. La loi contre tous ceux qui critiquent la guerre suffit à leur appliquer les sanctions les plus sévères. C'est une illustration de l'anarchie de la loi. En démocratie, même si les procédures d'adoption de la loi sont contraintes par des actes d'autorité de l'État, comme en France, par exemple, avec l'extension du domaine réglementaire par rapport à la loi lors de l'application de l'article 49.3 de la Constitution, les règles constitutionnelles sont respectées. Les assemblées restent les lieux de dialogue et d'opposition. Mais la fragilité de la démocratie tient justement à cette distance entre maintien d'un espace de dialogue et absence de dialogue dans les institutions représentatives. L'anarchie de la loi n'est jamais loin, pour peu que l'État se dissimule dans des habits démocratiques pour la construire. L'exemple de la Hongrie est un cas d'école. Pour installer une anarchie de la loi, il suffit de supprimer tout discours d'opposition, autrement dit, museler l'information, disposer d'une police assujettie au pouvoir, détruire l'indépendance de la justice par des lois prises par un parti majoritaire en vertu d'un processus électoral légal en vigueur dans le pays, puis le modifier à son avantage. Voilà comment des régimes d'extrême procèdent. Nous le savons tous depuis longtemps, tant d'artistes l'ont démontré avec brio, nous l'observons encore aujourd'hui et pourtant le danger d'un glissement vers la tyrannie est en cours. Notre contradiction, défenseur de la démocratie, est de ne pas croire à notre fragilité et de ne pas dénoncer en permanence le mensonge structurel sans limite des extrêmes. Comment peut-on jouer à une démocratie avec des acteurs qui la méprisent et visent à la détruire ? Les ostraciser, les ignorer et les rejeter systématiquement ne sert que leur manipulation du mensonge. Ils en appellent à la chasse aux sorcières, à leur victimisation. Il faut les combattre en dénonçant leurs mensonges structuraux, leurs complots, leur profond mépris de la démocratie, afin de faire comprendre, faire prendre conscience à tous de leur duplicité.
La guerre va chanter ses hymnes de colère. Moi, je ne chanterai ni tout haut ni tout bas. Les mots d'amour ici sont de haine là-bas. J'attendrai ton retour et même il pleut bergère, repris par mille voix sont des chants de combat, repris par mille voix sont des chants de combat. La guerre va jeter ses éclairs à la ronde, vers qui vais-je tirer, j'ai perdu le chemin. Où est-il l'ennemi, à qui est cette main? Le tonnerre a couvert nos voix qui se répondent. Ce soir je vais tuer mon ami de demain, ce soir je vais tuer mon ami de demain. Dans cette brume, où es-tu, où es-tu? La guerre, elle est toujours perdue. La guerre va brûler toutes ces fleurs de soufre, mes mains ne savent plus où porter leurs ciseaux. L'araignée a filé son étrange réseau. Quand je frappe en Norvège, en Chine un homme souffre. Quand je tire au matin, au soir tombe l'oiseau. Quand je tire au matin, au soir tombe l'oiseau. La guerre va semer nos amours sur les routes, nos corps au marché noir pour des rations de pain. À travers le blackout, des vitres que l'on peint, je vois briller des feux qui sont tes yeux sans doute. La mort nous couchera dans son lit de sapin, la mort nous couchera dans son lit de sapin. Dans cette brume, où es-tu, où es-tu? La guerre, elle est toujours perdue. La guerre va finir aux nouvelles dernières, même si la victoire éclate sur mon seuil. En musique de joie, en drapeau crève l'œil, elle est toujours perdue. Toujours perdu la guerre, le jour de gloire est là, et c'est mon jour de deuil. Le jour de gloire est là, et c'est mon jour de deuil. Mais quand je vois venir, déguisé en colombe, ou la musique en tête, une bande exaltée, pour ne pas vivre esclave, il faudra bien lutter. J'irai jusqu'à brandir le fusil ou la bombe, en chantant avec vous, vive la liberté. En chantant avec vous, vive la liberté.
Un peu de lecture. Le livre auquel nous allons nous intéresser est un petit livre bien bizarre. C'est un récit étonnant d'une artiste importante de la perception de sa folie. L'artiste qui le relate est Leonora Carrington et le titre du livre s'intitule « En bas ». Leonora Carrington est née en 1917 en Angleterre, dans le Lancashire, et meurt en 2011 à Mexico à 94 ans. Elle commence ses études à Londres, puis rencontre le mouvement surréaliste Paul Éluard, André Breton. Elle rencontre Mark Ernst en 1937 à Londres, puis ils décident de vivre ensemble à Saint-Martin-d'Ardèche en France. La guerre arrive, Mark Ernst s'est arrêté. Elle fuit en Espagne avec une amie, Karine Yarrow. Une profonde dépression l'a conduit à être hospitalisée en psychiatrie où elle subit des traitements violents. Le livre En bas est une sorte de songe éveillé de son expérience dans cet hôpital où gravitent des personnes inquiétantes. Elle nous livre une topographie des lieux et En bas est le lieu d'où l'on peut s'échapper. Elle s'en échappera et partira au Mexique, où elle restera une grande partie de sa vie à poursuivre son art jusqu'à un âge avancé. Elle reste une figure majeure du surréalisme anglais et une grande artiste reconnue mondialement. Lors de la dernière Biennale de Venise, quelques-unes de ses œuvres y étaient présentées. Mais ce n'est pas de peinture ou de sculpture dont nous allons parler, mais de son livre En bas, qui n'est pas l'unique livre de sa production littéraire. Il comprend 74 pages dans l'édition d'Eric Losfeld de 1973. Je ne suis pas un critique littéraire, c'est plutôt une lecture que je vais vous faire ici en passant de passage en passage de son récit, de son songe éveillé et de ses sensations. Je vais donc lire plusieurs passages, les uns à la suite des autres, comme une sorte de volonté de vous immerger dans ce livre. Commençons la lecture. Avant d'aborder les faits de cette expérience, je tiens à dire que l'arrêt prononcé contre moi par la société, à ce moment-là, était probablement et même sûrement un bien, car j'ignorais l'importance de la santé, c'est-à-dire la nécessité absolue d'avoir un corps bien portant pour éviter le désastre dans la libération de l'esprit. Je commence donc au moment où Max fut emmené pour la deuxième fois dans un camp de concentration, les fers au poignet à côté d'un gendarme armé d'un fusil. J'avais pleuré pendant quelques heures en bas dans le village. J'étais remonté ensuite à la maison où je m'étais livré 24 heures durant à des vomissements volontaires provoqués par de l'eau de fleurs d'oranger et interrompus par des courts sommeils. Maintenant, je sais que cela n'était qu'un seul aspect de ces vomissements. J'avais compris l'injustice de la société, je voulais d'abord me nettoyer et passer ensuite au-delà de sa brutale ineptie. Mon estomac était le siège de cette société, mais aussi le lieu dans lequel les éléments de la terre s'unissaient à moi. C'était, pour employer votre image, le miroir de la terre, dont la réflexion contient la même réalité que le reflété. Ce miroir, mon estomac, a dû être lavé des épaisses couches de crasse, les formules apprises, afin de bien refléter la terre, clairement et fidèlement. Et ici, quand je dis la terre, je veux dire, bien entendu, terre, astres, soleil dans le ciel, et sur la terre ainsi que les astres, soleil et terre du système solaire des microbes. Après 3 semaines de solitude, une Anglaise, amie de longue date, Catherine Yarrow, arriva, fuyant Paris, accompagnée de Michel Lucas, un non-grat. Les Allemands approchaient rapidement, Catherine s'effraya et me supplia de partir avec elle, me disant que si je ne voulais pas la suivre, elle resterait là. J'acceptai. Nous roulions normalement, quand à 20 km de Saint-Martin, la voiture s'arrêta, les freins coincés. J'entendis Catherine dire « Les freins sont coincés, coincés !» Mais moi, j'étais coincé en moi-même, par des forces étrangères, à ma volonté conscience. Et j'étais certaine que la puissance de mon anxiété avait agi sur le mécanisme de la voiture, l'avait paralysée. Arrivé à Andorre, je ne pouvais plus marcher droit. Je marchais comme un crabe, je perdais le contrôle de mes mouvements. Monter un escalier provoquait à nouveau le coincement. La nuit, mes nerfs hurlaient comme des perroquets exaspérés au bruit d'une rivière qui ne cessait de couler sur des rochers. Bruit hypnotisant, monotone. Alors j'ai compris que par cette angoisse, mon esprit, si vous voulez, était en train de s'unir douloureusement à mon corps. Mon esprit ne pouvait plus se manifester sans avoir un effet immédiat sur mon corps. Tout cela se passait les mois de juin et de juillet, et les réfugiés s'amoncelaient. Michel envoyait des télégrammes à mon père pour obtenir des visas pour l'Espagne. J'étais bouleversé de cette entrée en Espagne. Je la croyais mon royaume. La terre rouge était le sang desséché de la Révolution. J'étais étouffé par les morts, par leur présence épaisse dans cette campagne lacérée. J'étais très exalté en arrivant le soir à Barcelone, convaincu qu'il fallait atteindre Madrid avec la plus grande des rapidités. Arrivé à Madrid, nous descendîmes à l'hôtel international, près de la gare, pour le quitter plus tard et aller à l'hôtel Roma. Quelques jours plus tard, à l'hôtel Roma, je connus un juif hollandais, Van Gent, agent nazi, dont un fils travaillait à l'Imperial Chemical, société anglaise. Il me montra son passeport infesté de croix gammées. De plus en plus, je tenais à me débarrasser des contraintes sociales. Dans ce but, je fis cadeau de mes papiers à je ne sais plus qui, et je tentai de donner le passeport de Max à Van Gent, qui le refusa. Non contente de donner mes papiers, je me sentais obligé de me dépouiller de tout. Un soir, assise à côté de Van Gent, à la terrasse d'un café, je voyais défiler le peuple de Madrid, et je le sentais possédé par le regard de cet homme. J'étais toujours convaincu que Van Gent était celui qui hypnotisait Madrid, ses hommes et sa circulation, lui qui transformait les gens en zombies et distribuait l'angoisse comme bonbons afin de faire de tous des esclaves. La suite logique de cette pensée fut de mettre les autorités au courant de l'horrible domination de Van Gent et prendre des mesures pour libérer Madrid. Un accord entre Espagne et Angleterre me paraissait la meilleure solution. Je me rendis donc à l'ambassade d'Angleterre où je vis le consul. Je tâchai de convaincre celui-ci que la guerre mondiale était faite à base d'hypnotisme par un groupe de gens, Hitler and Company, représenté en Espagne par Van Ghent, qu'il suffisait de prendre conscience de ce pouvoir hypnotique pour le vaincre, pour arrêter la guerre, pour délivrer le monde coincé comme moi et la Fiat de Catherine, qu'au lieu de se perdre dans les labyrinthes politiques et économiques, il fallait croire en cette métaphysique, la distribuer à tous les humains qui se trouveraient ainsi libérés. Ce bon bourgeois britannique constata immédiatement que j'étais folle et téléphona à un médecin nommé Martinez Alonso, qui fut tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il conclut l'exposé de mes théories politiques. Ma libre circulation dans la vie prit fin ce jour-là. J'étais enfermé à clé dans ma chambre d'hôtel au Ritz, où je me trouvais parfaitement contente. En attendant, Martinez Alonso, entièrement désorienté par mon cas, m'abreuvait de bromure et de supplications de ne pas rester nu lorsque les gardiens m'apportaient ma nourriture. Il se retira, me laissant aux soins d'un médecin de ses amis. Je sortis de la clinique et montai dans la voiture vers Santander. Sur le chemin, on me donna du luminal 3 fois et on me fit une piqûre dans la colonne vertébrale. Anesthésie. Je fus livré au docteur Morales à Santander à l'état de cadavre. Je me réveillai dans une chambre très petite, aucune fenêtre ne donnait sur l'extérieur. La fenêtre était percée dans le mur de droite qui me séparait de la pièce voisine. Ma première prise de conscience fut douloureuse. Je croyais avoir été victime d'un accident de voiture. L'endroit évoquait un hôpital et une infirmière à l'aspect repoussant, semblable à une bouteille d'eau de Javel, mes pieds. J'avais mal et me rendis compte que j'avais les mains et les pieds attachés par des courroies de cuir. Je posais des questions probablement incohérentes à l'infirmière qui me donnait en anglais, avec un accent américain très désagréable, des réponses richement négatives. Je n'ai jamais pu savoir combien de temps je suis resté inconsciente, des jours ou des semaines. Lorsque je devins tristement raisonnable, on me raconta que les premiers jours, je m'étais conduite comme divers animaux, que je sautais avec l'agilité d'un singe sur l'armoire, que je griffais et rugissais comme un lion, que je hennissais, j'aboyais, etc. Elle me dit alors que j'étais là pour me reposer. Reposer ! Finalement, à force de douceur et d'arguments subtils, je la convainc de me détacher, et je m'habillai, pleine de curiosité, pour savoir ce qu'il y avait dehors. Je longeai le couloir sans chercher à ouvrir la porte, aux fenêtres opaques, et j'arrivai dans un petit hall carré, aux fenêtres étroitement corsetées de barreaux de fer. Je pensai. Drôle d'endroit de repos. Ces barreaux sont là pour m'empêcher de sortir. Je vais m'approcher de ce fer et le convaincre de la nécessité de me rendre ma liberté. Le jardin était très vert malgré les touffes de vapeurs bleuâtres des hauts eucalyptus. Devant Cavadonga, un verger d'arbres couvert de pommes, je compris alors que c'était l'automne et, par le ciel bas, que le soir venait. En regardant le plan, vous verrez l'emplacement de la Villa Pilar, de la radiographie, de Cavadonga, d'Amachu et d'en bas. Vous pourrez ainsi vous orienter dans le jardin. J'étais probablement toujours en Espagne, la végétation était européenne, le climat doux, l'architecture de Cavadonga plutôt espagnole. Bientôt apparut une petite, très petite infirmière, Mercedes, courant au triple galop, suivie d'un chien noir, Moro. Derrière elle venait plus lentement un homme grand et gras, vêtu également de blanc. Je reconnus celui-ci comme étant un être puissant, et m'empressai de le rejoindre en me disant « Celui-ci tient la solution ». De près, je fus désagréablement frappé de lui voir des yeux semblables, en plus terrifiant encore, à ceux de Van Ghent. Je me disais « Il est de la même bande, possédé comme les autres, méfie-toi ». C'était Don Luis Morales, fils de Don Mariano. Je ne m'approchai qu'à faible distance, mais il chercha à m'attraper. Et, tout en restant près de lui, j'évitai qu'il me mît la main sur moi. À ce moment survint José qui me saisit à bras le corps. Je me défendis honorablement jusqu'à l'apparition d'un autre homme, Santos, qui se mêla à la lutte. Don Luis s'était assis confortablement entre deux racines d'arbres et se régalait du spectacle. Bientôt, les deux hommes, José et Santos, me jetèrent à terre. José s'assit sur ma tête, tandis que Santos et Atzegorada cherchaient à maîtriser mes membres, qui ne cessaient de se débattre. Mercedes, armée d'une seringue qu'elle brandissait comme une épée, enfonça une aiguille dans ma cuisse. Je pensais qu'il s'agissait d'un somnifère et décidai de ne pas dormir. À mon grand étonnement, je n'avais pas sommeil et je voyais ma cuisse enflée à la hauteur de la piqûre jusqu'à atteindre la grosseur d'un petit melon. Atzegorada me dit que l'on avait provoqué un abcès artificiel dans ma cuisse. La douleur et l'idée que j'étais infecté m'empêchèrent pendant 2 mois de marcher librement. Dès qu'ils me lâchèrent, je me jetai avec fureur sur Don Luis et le griffai jusqu'au sang, avant que José et Santos n'aient le temps de m'emporter. Santos m'étranglait avec les doigts. À Cavadonga, ils arrachèrent mes vêtements avec brutalité et m'attachèrent nu sur le lit. Don Luis entra alors dans ma chambre pour me contempler. Je ne sais pas pendant combien de temps je restais attaché et nu. Plusieurs jours, plusieurs nuits, couché dans mes propres immondices, urine et sueur, torturé par les moustiques dont les morsures rendaient mon corps hideux, je croyais qu'ils étaient les esprits des Espagnols écrasés qui me reprochaient mon internement, mon manque d'intelligence et ma passivité. L'élan de mon remords rendait leur attaque supportable, la saleté ne me gênait assez peu. Une nuit, tout éveillé, je fis ce rêve. Une chambre à coucher immense, comme la scène d'un théâtre, un plafond voûté, peint comme un ciel, le tout très délabré mais luxueux, un lit autrefois garni de rideaux déchirés et de cupidons peints ou réels, je ne sais plus. Un jardin assez semblable à celui dans lequel je m'étais promené la veille. Il était entouré de fils barbelés, entre lesquels mes mains avaient le pouvoir de faire pousser les plantes qui s'enlaçaient autour d'eux et, les recouvrant, les rendaient invisibles. Après plusieurs jours d'immobilité imposée, je constatai que mon cerveau fonctionnait toujours et que je n'étais pas vaincu. Je croyais mon pouvoir cérébral supérieur à celui de mes ennemis. Un soir, veillé par José et Mercedes, je me trouvai tout à coup affreusement oppressé. Je sentais que l'esprit de Don Luis me possédait et que sa domination s'enflait en moi comme un pneu géant et j'entendais son vaste et immense désir d'écraser l'univers. Tout cela me pénétrait comme un corps étranger et cette torture était au-delà de tout pouvoir de description. J'étais convaincu que Don Luis était sorti, ce qui n'était pas vrai. Et je n'avais qu'une idée, profiter de cela pour échapper à l'immonde puissance de cet être. Le lendemain était sans doute un dimanche, car j'entends encore le son des cloches venant du dehors et les bruits des pas de chevaux qui me donnèrent une terrible nostalgie et l'envie de fuir. J'avais entendu parler de plusieurs pavillons, le plus grand était très luxueux, comme un hôtel avec des téléphones et des fenêtres sans barreaux, on l'appelait l'abajo, en bas, et l'on y vivait heureux. Le lendemain matin, un étranger entra dans ma chambre, il tenait à la main un petit sac de médecin en cuir noir. Il me dit qu'il venait me faire un prélèvement de sang pour analyse et qu'il était nécessaire qu'il fût aidé de Don Luis. Don Luis entra à son tour et je lui annonçai mon départ. Doux et cauteleux, il commença à me parler de cette prise de sang. Je parlai assez longtemps avec lui de mon changement de pavillon, d'Alberto et de différentes choses dont je ne me souviens plus. Nous parlions les yeux dans les yeux, il me tenait la main gauche. Soudain, José, Santos, Mercedes, Atzegorada et Piadoza se trouvèrent dans la pièce. Ils me prirent chacun une partie de mon corps et je vis le centre de tous les yeux fixés sur moi dans un regard affreux, affreux. Les yeux de Don Luis lacéraient mon cerveau et moi je m'enfonçais dans un puits très loin, très loin. Le fond de ce puits était l'arrêt, un arrêt éternel dans le comble de l'angoisse. Mais comprenez-vous jamais ce que je veux dire en parlant de l'essence du comble de l'angoisse? Grâce à une étrange convulsion de mon centre vital, je remontais avec une rapidité vertigineuse à la surface. Je voyais à nouveau les yeux fixés affreux et je hurlais « je ne veux pas de cette force immonde. Je voudrais vous libérer, mais je ne pourrai pas parce que cette force astronomique me détruira si je ne vous écrase pas tous, tous. Je dois vous détruire ainsi que le monde entier parce que ça augmente et l'univers n'est pas assez grand pour ce besoin de destruction. Je grandis et j'ai peur parce qu'il ne restera plus rien à détruire. » Je m'enfonçais à nouveau dans la panique éternelle, comme si ma prière avait été entendue. Avez-vous idée maintenant de ce qu'est le grand mal épileptique ? C'est cela même que provoque le cardiazol. J'ai su plus tard que cet état avait duré 10 minutes. J'étais convulsé, pitoyablement hideuse, et je faisais des grimaces qui se répétaient dans mon corps entier. Je pensais qu'on me faisait subir des tortures de purification pour me faire atteindre à la connaissance absolue et qu'alors je pourrais vivre en bas. Ce pavillon était pour moi la terre, le monde réel, le paradis, l'Éden et aussi Jérusalem. 3 jours peut-être après ma 2e piqûre de cardiazol, on me rend les objets qu'on m'avait confisqués à mon entrée et l'on m'en donna d'autres. J'ai compris alors qu'avec cela, je devais commencer à travailler, à combiner des systèmes solaires afin de régler la conduite du monde. Mon porte-mine, rouge et noir, sans mine, était l'intelligence. 2 bouteilles d'eau de colonne, l'une de forme plate, les juifs, l'autre de forme cylindrique, les non-juifs. Une boîte de poudre de la marque Tabu, dont le couvercle était moitié gris, moitié noir, signifiait éclipse, complexe, vanité, tabou, amour. 2 pots de crème, dont l'un avait un couvercle noir, la nuit, le côté gauche, la lune, la femme, la destruction, et l'autre, un couvercle vert, l'homme, le frère, les yeux verts, le soleil, la construction. Mon polissoir m'évoquait le voyage dans l'inconnu et aussi le talisman qui protégeait ce voyage. Le bateau à voile. Mon petit miroir devait capter le tout. Quant à mon bâton de rouge marque Tanguy, j'ai un souvenir imprécis de sa signification. Il était probablement la rencontre de la couleur et de la parole, la peinture et la littérature, l'art. Heureuse de ma découverte, j'arrangeais ces objets les uns autour des autres. Ils circulaient ensemble sur le chemin céleste, les uns par les autres, formant un rythme complet. Lucide et joyeuse, j'attendais avec impatience l'arrivée de Don Luis. Je me disais, j'ai résolu les problèmes qu'il m'a posés, je serai certainement conduite en bas. Et je fus horrifié de voir que, loin d'apprécier mon travail, il me donnait une 2e piqûre de cardiazol. J'organisais alors ma propre défense. Je sais qu'en fermant les yeux, j'évitais l'apparition de la plus intolérable douleur, le regard des autres. Je restais donc très 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 longtemps sans les ouvrir. J'épiais aussi mon exil du reste du monde. C'était le signe de ma sortie de Kavadonga, qui était pour moi l'Égypte, et ma rentrée en bas à Jérusalem, où je devais porter la connaissance. J'avais passé trop de temps à me complaire dans ma solitude, avec mon propre savoir. Je rencontrai 2 jours plus tard dans la bibliothèque un petit homme à figure grise, disparaissant sous des vêtements chauds. C'était Echevarria. Il me parla aimablement de mon pays. Il s'assit dans la salle à manger, à la table voisine de la mienne, puis il me regarda longuement avec bienveillance et me dit enfin « Vous, vous ne resterez pas longtemps ici. » J'éprouvais une joie très douce, grandissant lentement en moi, de parler à un homme raisonnable qui ne m'inspirait aucune crainte et me prenait au sérieux avec beaucoup de sympathie. Je lui parlai de mon pouvoir sur les animaux, il me répondit sans ironie. « Le pouvoir sur les animaux est chose naturelle chez une personne aussi sensible que vous. » Et j'ai appris ainsi que le cardiazol était une piqûre et non un effet de l'hypnotisme, que Don Luis n'était pas un sorcier mais un bandit, que Kavadonga, l'Égypte, Amachou, la Chine, étaient des pavillons où l'on soignait des fous et qu'il m'en fallait sortir au plus vite. Il désocculta le mystère qui m'enveloppait et que l'on semblait épaissir à plaisir autour de moi. La lecture de ce récit s'achève, il pourrait être un conte sur nos fragilités et les forces internes face au monde. Jean Schuster, qui dirige cette collection intitulée « Le désordre » de l'éditeur Eric Zosfeld, préface ce livre en écrivant. Je le cite. « Longtemps la folie a apparu ineffable. Ces témoignages graphiques ou littéraires ne la racontaient pas, mais livraient les résultats d'une hyperesthésie spécifique du naufrage de la raison. L'hyperesthésie caractérise une augmentation de la sensibilité de n'importe lesquels des sens, vue, son, toucher, audition et odorat. » Le récit de Leonora Carrington, En bas, publié en 1945 par Henri Parizeau, est sans doute l'un des premiers du genre. Récit entrepris 3 ans après son internement, récit sans complaisance ni détour. Autre que la relation du comportement psychotique par le sujet lui-même saccage la notion d'objectivité considérée comme garantie scientifique d'authenticité, elle rend vraisemblable l'hypothèse d'un état mental échappant à l'alternative santé-maladie.
Les proverbes d'aujourd'hui à notre époque ressemblent. Les proverbes d'aujourd'hui sont les clameurs de la nuit. Les oreilles ont des murs qui nous empêchent d'entendre. Les oreilles ont des murs de chair, c'est plus sûr. La charrue avant les bœufs, ainsi ça les encourage. La charrue avant les bœufs font les beaux terrains pour bœufs. 2 et 2 font 5 ou 3, pour le penser on est 4. 2 et 2 font 5 ou 3, ce qui est, c'est ce qu'on croit. Les mains vides aux innocents, aux corrompus, les mains pleines. Les mains vides aux innocents, aux assassins hors et sang. Et lorsque les chiens aboient, la caravane s'arrête. Et lorsque les chiens aboient, on écoute enfin leur voix. Les premiers sont les derniers, derniers quand même. Les premiers sont les derniers, où sont passés les premiers. De tu l'auras, ça vaut mieux qu'un seul tien sans aucun risque. De tu l'auras, ça vaut mieux, un tien c'est mort et c'est vieux. La cigale a tant chanté qu'elle devient richissime. La cigale a tant chanté, la fourmi morte l'été. Ne fais jamais ce que doit, de nouveaux devoirs surviennent. Ne fais jamais ce que doit, surtout fais n'importe quoi. Et tel qui rit vendredi rira bien encore dimanche. Et tel qui rit vendredi, c'est déjà bien ça de prix. Il n'y a ni moyen ni fin, plus rien qui nous justifie. Il n'y a ni moyen ni fin, devant la soif et la faim. Les proverbes d'aujourd'hui à notre époque ressemblent. Les proverbes d'aujourd'hui sont les clameurs de la nuit, de la nuit.
Un peu d'exposition. Quelques œuvres de Cécile de Talec ont été exposées dans le cadre d'un ensemble d'expositions sur les 5 sens à Angers au début de cette année 2024. Cette artiste est née en 1962 et vit entre Paris et la région Centre-Val-de-Loire. L'ensemble de ces quelques œuvres accueillies par le musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine d'Angers parle du rapport qu'elle établit sur les formes et le sens du son qui vont du silence aux formes les plus dissonantes. Nous pouvons dire qu'il s'agit du cœur de son travail qui interroge parfois le fait d'écouter, parfois le son comme véhicule du langage, parfois des espaces sonores inaudibles et pourtant accessibles par certains procédés, comme les mouvements des planètes ou des plaques terrestres, parfois de l'interaction entre l'ambiance sonore et le spectateur. Ce sens de l'écoute chez elle en appelle aux autres sens, le toucher, la vue, l'odorat. Ainsi, son travail joue d'une grande diversité de formes, tapis, fil, micro, toile, parquet, perroquet, etc. Ses installations sonores, silencieuses ou bruyantes, interactives ou non, sont des invitations à s'immerger dans l'attention des bruits, du silence, dans la prise de conscience de nos capacités perceptives du son. Mais elle n'est pas musicienne, mais elle est plutôt sculptrice, car elle porte un grand intérêt à l'espace du son et au récit, à la voix, au langage qu'elle peut insuffler, révéler, sous-entendre grâce au son. Dans ce sens-là, elle s'écarte de l'œuvre de Christian Marclay, qui lui est un musicien. Même s'il s'intéresse au silence, aux onomatopées, aux instruments, c'est toujours le son, entendre, comprendre, percevoir, imaginer le son, qui est au cœur de son travail, dont nous avons largement parlé lors de notre 27e émission. L'exposition monographique au musée Jean Lurçat présente un groupe d'œuvres qui pour la plupart ont été présentées lors d'autres expositions. Le titre « Tisser le son » explique en partie le choix des œuvres qui toutes formellement se rapportent à la grille, au tissage, que ce soit bien sûr un tapis, une tapisserie, mais aussi une structure du plancher ou une installation de micro sur des tiges qui s'entrecroisent. L'exposition comporte 5 œuvres que je vais vous présenter en reprenant les notices des œuvres réalisées par le musée qui sont simples et efficaces. Puis nous essaierons à partir de ces 5 œuvres de distinguer les axes majeurs qui irriguent le travail de Cécile Le Talec. L'entrée dans l'exposition nous place dans la pénombre dans laquelle se distingue un grand cylindre éclairé. Il s'agit d'une tapisserie intitulée « Panoramique polyphonique 2011-2013 ». Je cite la description du dossier de presse. Cette installation circulaire, constituée d'une tapisserie tissée recto-verso, s'expose tel un paysage panoramique. En entrant à l'intérieur, le spectateur déclenche une bande sonore composée de chants d'oiseaux des jardins et de paroles sifflées en silbo, langue utilisée dans les régions montagneuses de l'île de la Gomera, aux Canaries, pour communiquer d'une vallée à l'autre. Le motif tissé évoque des montagnes ou des nuages. Ces dessins correspondent au spectrogramme du son diffusé. Avec cette œuvre, Cécile Le Talec monumentalise le son, immatériel par essence, et donne à voir ce que l'on entend. Puis nous entrons dans une pièce où sont présentées les 4 œuvres restantes. Toile flottante de 2015 est suspendue face à un plancher. Elle est décrite ainsi. Ces 3 toiles de parachute suspendues sont peintes à l'encre selon la technique du suminagashi. Inventée au Japon au XIIe siècle, elle consiste à créer un motif semblable au marbre en soufflant sur de l'encre flottant à la surface d'un liquide. Ainsi dispersée, l'encre forme un dessin sur lequel on dépose un tissu qui vient s'en imprégner. Inspirée par son voyage au Japon, l'artiste nous invite ici à traverser un paysage poétique et imaginaire. Le plancher occupe une grande partie du sol de la pièce. Il s'agit d'une œuvre intitulée « Ground Sound » de 2015. Elle est ainsi décrite. Ce plancher clavier déclenche, sous les pas des visiteurs, des sons créés à partir des fréquences des étoiles, des chants d'oiseaux et des paroles sifflées. Il invite le visiteur à composer une création sonore, aléatoire et chaque fois différente. Cette œuvre est inspirée du parquet Rossignol, du palais Nihō à Kyoto, dont les planches cloutées imitent le chant de cet oiseau. Cécile Le Talec collecte et collectionne les sons, nous proposant une expérience sensorielle inédite et surprenante. Plus loin, un tapis est posé au sol. Cette œuvre s'intitule « Atlas partition tissée » de 2022. Elle est ainsi décrite. Ce tapis a été tissé par une coopérative de femmes lissières du Haut Atlas marocain, d'après un dessin de Cécile Le Talec. De génération en génération, les tisserandes imazighènes, ou berbères, utilisent des signes comme une écriture secrète pour raconter leur histoire, leur vie et leur territoire. L'artiste s'inspire de ces motifs pour créer à son tour une partition graphique qu'elle traduit sous la forme d'un tapis sonore. Ainsi, à travers les signes tissés et les murmures à écouter, ce tapis nous raconte une histoire secrète dont seul l'artiste a le sens. Et enfin, le mur du fond est occupé par des tiges portant des mini-haut-parleurs, une œuvre intitulée « Paroles fantômes » de 2022. Elle est ainsi décrite. Suspendu dans l'espace, des câbles conduisent un son émis par de petits haut-parleurs. Le volume volontairement très bas invite le spectateur à s'approcher pour l'écouter. La composition sonore, réalisée numériquement par Cécile Le Talec, mêle des chuchotements, des sons d'instruments et de la nature. L'artiste donne à entendre, mais aussi à voir le son. L'installation prend la forme de spectrogrammes acoustiques. Cette forêt de fils peut évoquer la superposition de murmures, tandis que les haut-parleurs noirs suggèrent des notes de musique sur une portée. Après ces descriptions, analysons son œuvre. Cette œuvre joue en permanence de la transposition, passage d'un espace physique ou immatériel à un autre, de la transition, passage d'un état dans un autre, la transformation, passage d'une forme en une autre, et de la transmutation, transformation totale d'une chose en une autre. En effet, l'image de l'analyse spectrographique du son diffusé dans le cylindre de panoramique polyphonique se voit reportée sur le carton de la tapisserie qui a permis sa réalisation et transformée d'image plate sur un écran ou sur un papier, en une tapisserie faite de laine qui présente une physicalité différente, chaude, épaisse et sourde. Toiles flottantes sont la transmutation d'un souffle en image. Le sol de Ground Sound est une transposition du parquet rossignol du palais Nihō à Kyoto. Atlas partitions tissées sont la transformation de signes faisant référence à des faits personnels de l'artiste en motif de tapis, à l'instar de la tradition des tisserandes imazighènes qui retracent par des signes personnels leur propre vie. Enfin, Paroles fantômes est une installation qui transpose une installation sonore en une installation visuelle, une installation de fils et de haut-parleurs en portée musicale. Elle aurait pu ajouter un degré de plus comme le fait Christian Marclay qui photographie des portraits musicales reproduites sur différents objets comme des enseignes, des publicités et ensuite les fait jouer par des musiciens. Mais cette action ne l'intéresse pas car elle ne cherche pas, comme pour Christian Marclay, à révéler le son, la musique, même silencieuse, car elle ne vise pas à construire un son, une musique, mais plutôt fait appel au son, souvent d'origine variée, comme l'un des vecteurs de ses installations. Le son n'est pas la source et la finalité de l'œuvre, comme chez Marclay, mais une matière comme la laine, le fil de métal, l'image vidéo, qui vient construire une installation, une sculpture qui se donne à voir, à sentir l'espace que tous ces éléments créent ensemble. Chaque élément concourt à disperser l'œuvre pour qu'elle soit, par l'expérimentation du visiteur, reconstruite par lui. Les œuvres de Cécile Le Talec s'organisent autour d'un passage d'une chose à l'autre, d'un état à l'autre, d'un espace à un autre, pour construire un récit poétique toujours ouvert, qu'elle refuse de clôturer sur lui-même, et qu'elle confie entre les mains des visiteurs pour qu'ils puissent l'expérimenter. Elle expérimente ses œuvres pour les faire expérimenter par les autres. Mais quand elle les livre aux visiteurs, ce n'est pas comme une œuvre finie, mais comme une extension de cette œuvre qu'elle serait incapable de finir, comme si elle en déléguait la finition aux autres, sans jamais dans le dispositif qu'elle met en place, préorienter, présupposer ce que peut être cette fin. Dans ce sens, elle rejoint les dispositifs de l'artiste Erwin Wurms, qui a mis en place des œuvres intitulées « One Minute Sculpture », dans lesquelles il met à disposition du visiteur des objets que le visiteur doit choisir et avec lesquels il doit créer une sculpture. Par exemple, prendre un seau et le mettre sur la tête, ou sans chaussée, etc. Il donne tous les éléments pour faire la sculpture, méthode et objet, mais il est bien incapable de dire ce que vont en faire les visiteurs. Toutes les propositions des visiteurs sont photographiées et viennent s'ajouter à toutes celles faites précédemment. Ainsi s'explique ce sentiment du visiteur de ne pas tout saisir de l'œuvre, alors même que, s'il lit la notice, il a l'impression que tout en est dit. Si je reprends celle d'Atlas Partition Tissée, nous apprenons que le tapis est tissé par des femmes berbères qui, pour ceux qu'elles composent habituellement, le sont avec leur propre histoire. Celui présenté l'est d'après un dessin issu de signes relevant de la propre histoire de l'artiste. Tout semble dit. Pourtant, l'artiste demande de se coucher ou de s'asseoir dessus pour poursuivre sa compréhension, pour entendre les bruits qui s'en échappent. Mais l'écoute de ces murmures ne livre pas plus de l'œuvre, si ce n'est de la vivre comme une expérience d'une autre façon, avec ses oreilles, sa sensibilité. Alors que la compréhension de l'œuvre semblait acquise par un déroulé logique et rationnel, voilà qu'elle s'en échappe pour laisser seul à seul le visiteur avec elle. Ainsi, faire l'effort de se coucher pour entendre des bruits qui n'apportent pas tant d'éclaircissement au-delà de ce qu'en dit la notice, peut-être le laisser sur sa faim. Or, c'est au visiteur d'agir, d'avoir la disponibilité de l'expérimenter pour soi, d'activer l'œuvre à son profit personnel. Cécile de Talec se comporte comme un chercheur de l'impossible. Elle accumule preuves, témoignages, documents avec le plus grand sérieux et la plus grande passion pour construire un espace à l'œuvre riche de milliers de potentialités. Puis, elle vient la déposer dans les mains du visiteur, qui lui-même doit se lancer dans cette expérience comme un simple vécu avec cette impossibilité à la comprendre totalement, car elle ne peut que se définir par la multiplicité, la diversité des propositions de tous ceux qui l'expérimentent. Elle révèle cette nécessaire disponibilité qu'il faut pour approcher des personnes, des animaux, des végétaux et l'univers, et même au-delà, cette nécessité d'un premier état d'incompétence qui oblige, avant tout avis péremptoire de celui qui pense savoir, à se lancer dans des recherches. C'est pourquoi l'artiste est, elle aussi, passionnée par cette quête. Un peu comme un alchimiste qui chercherait la transmutation d'un métal en or. Elle est fascinée par ce sifflement des hommes qui se transmue en chants d'oiseaux. Si nous nous intéressons à l'œuvre de Grand Sound, nous l'avons dit, le parquet qui nous est proposé est une transposition du parquet Rossignol du palais Ninja à Kyoto, construit au XVIIe siècle dans le but de contrôler le passage d'éventuels intrus par les crissements émis par les pas du visiteur.